C'est le journal de France Culture, présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. En Belgique, la crise autour du CETA est en train de devenir une impasse. La ministre canadienne du Commerce a claqué la porte des négociations tout à l'heure. Chrystia Freeland a rencontré à deux reprises aujourd'hui le chef du gouvernement wallon hostile au projet. Et selon elle, l'Union européenne est incapable de conclure ce traité de libre-échange. Nous ferons le point avec Pierre Benazé au début de ce journal. En Irak, la ville de Kirkouk est toujours sous le feu de l'État islamique qui tente une diversion alors que les forces de Bagdad avancent vers Mossoul. Le récit d'Éric Biegala dans un instant. Le référendum contre le président Maduro est reporté au Venezuela. Il y aurait eu des fraudes dans la procédure de collecte de signatures pour valider ce scrutin. Angèle Savino nous attend à Caracas avec les explications. En France, les autorités se préparent à évacuer la jungle de Calais. Le démantèlement est prévu lundi et Mathieu Darrier va nous préciser le dispositif. L'inquiétude aussi des magistrats en colère face à la colère des policiers. Clarisse Taron, la présidente du syndicat de la magistrature, s'inquiète pour l'indépendance de la justice. Enfin, nous nous intéresserons aux SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologies regroupées dans 185 établissements de recherche en France. Marc Van Torout a assisté à leur deuxième convention. Son reportage en fin de journal. En Belgique, alors que les négociations devaient se poursuivre sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se disant tout à l'heure confiant au sommet des chefs d'État qui s'est terminé vers midi, il y a eu un revirement de situation. La ministre du Commerce canadienne, qui était à Namur ce vendredi et qui a rencontré deux fois Paul Magnette, le chef du gouvernement de Wallonie, hostile au projet, eh bien cette dernière a claqué la porte tout à l'heure. Tout comme la délégation canadienne qui rentre avec elle à Ottawa. À Bruxelles, le récit de Pierre Benazé.
Paul Magnette, le ministre-président de la région Wallonie, avait décidé de passer par-dessus le gouvernement fédéral belge et la Commission européenne. Mais même là, la Wallonie a échoué à faire accepter ses exigences. La ministre canadienne du Commerce était au bord des larmes en annonçant l'échec des pourparlers, malgré les efforts consentis par le Canada. Chrystia Freeland.
Il semble évident pour moi, pour le Canada, que l'Union européenne n'est pas capable maintenant d'avoir un accord international, même avec un pays qui a des valeurs si européennes comme le Canada, et même avec un pays si gentil et avec beaucoup de patience comme le Canada. Le Canada est déçu. Moi, personnellement, je suis très déçue. Je pense que c'est impossible. Je suis très, très triste, vraiment.
C'est donc en apparence la fin de la route pour l'accord économique et commercial global avec le Canada, qui avait pourtant été décrit par François Hollande comme le modèle de ce qu'il faudrait faire pour revoir les négociations avec les États-Unis. La Commission européenne ne s'avoue cependant pas vaincue. Elle affirme que c'est juste une halte sur le chemin qui mènera à la signature de l'accord. L'espoir existe donc peut-être encore chez les Européens de convaincre tout de même la Wallonie.
La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé. Le Conseil européen, qui s'est donc terminé ce midi à Bruxelles, n'a pas non plus réussi à se mettre d'accord sur d'éventuelles sanctions à l'égard de la Russie pour ses bombardements en Syrie. Alors qu'à Genève, cet après-midi, une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé des crimes de portée historique à Alep. La ville, coupée en deux depuis 4 ans, traverse une pause humanitaire qui doit en principe permettre aux civils et aux malades d'être évacués de la partie est assiégée par le régime de Damas. Trêve qui devrait se poursuivre jusqu'à demain, selon Moscou. Pour l'heure, quasiment personne n'a emprunté l'un des 8 couloirs réservés pour les évacuations. En Irak, alors que les forces spéciales de Bagdad et les combattants kurdes progressent vers Mossoul pour reprendre cette ville à l'État islamique, les djihadistes tentent de faire diversion. Ils ont attaqué ce matin la ville de Kirkouk, située au sud-est de Mossoul, ville sous contrôle kurde. Cette initiative surprise a fait au moins 18 morts au sein des forces de l'ordre et parmi les employés d'une centrale électrique prise pour cible. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Anne.
Où en est-on ce soir de cette offensive de l'État islamique ?
Eh bien, elle se poursuit apparemment, Anne. Du moins, y a-t-il encore dans la ville de Kirkouk, des échanges de tirs, quoique sporadiques, comme on peut le constater en regardant l'une des chaînes d'information kurdes qui diffuse en direct depuis le centre-ville de Kirkouk. Il semble que les djihadistes se soient retranchés dans au moins 2 bâtiments, un hôtel du centre-ville et une habitation dans le quartier sud. Difficile de dire quel était l'objectif précis des combattants de l'État islamique. Ils étaient visiblement assez nombreux, près d'une quarantaine. Ils ne s'en sont pas pris au puits de pétrole, la grande richesse de la zone de Kirkouk. Ils ont d'abord attaqué en pleine nuit une centrale électrique en construction 30 km au nord reste de la ville. C'est là où ils ont fait le plus de victimes, près d'une quinzaine. Ils ont également tenté en vain d'attaquer la prison de Kirkuk, peut-être pour libérer quelques-uns de leurs comparses. Il y a eu également une tentative d'attaque contre un bâtiment qui avait été un quartier général de la police, à Kirkuk même, mais qui n'était plus depuis au moins 2013. Ils ont surtout fait le coup de feu en ville, un peu au hasard, semble-t-il, s'emparant aux premières heures de la matinée de quelques bâtiments d'habitation, hurlant leur slogan dans les haut-parleurs d'une des mosquées investies à l'heure de la première prière. Le bilan humain de cet assaut n'est pas encore définitif. Les hôpitaux où ont été emmenés les victimes, à Souleymaniye, la grande ville de l'Est irakien, parlent d'une douzaine de blessés et d'un mort civil à Kirkuk même. Du côté des forces de sécurité kurdes, on parle de 6 à 8 policiers ou peshmerga tués. Et du côté des djihadistes, on compte au bas mot une quinzaine de victimes.
Et j'ajoute qu'un journaliste irakien a été tué par un tireur embusqué de l'État islamique alors qu'il couvrait les affrontements de Kirkuk. On apprend aussi que 15 femmes ont été tuées dans un raid aérien qui a visé un lieu de culte chiite près de cette ville. Pas d'informations pour le moment sur l'origine de ce bombardement. En Libye, un bateau se réclamant de la garde-côte libyenne a attaqué un navire de migrants, 150 personnes à bord, au moins 4 d'entre elles se sont noyées selon l'ONG Sea-Watch qui précise que l'intervention a provoqué un mouvement de panique collective. Le porte-parole des forces navales libyennes dit n'être au courant de rien. Au Venezuela, le référendum qui devait être organisé sur le départ du président Maduro, très impopulaire dans le pays, est dans l'impasse. Le Conseil national électoral a décidé de reporter la collecte des signatures nécessaires pour organiser ce scrutin. Bonsoir Angèle Savino.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Caracas. Des tribunaux locaux dans plusieurs États fédérés ont annulé une première série de signatures évoquant des fraudes.
Oui, alors écoutez, organiser la semaine prochaine la collecte des 4 millions de signatures sur 3 jours, c'est-à-dire 20% de l'électorat, c'était l'objectif de l'opposition qui remue ciel et terre pour organiser le référendum avant le 10 janvier 2017. Des fraudes dans 5 États du Venezuela remettent en cause la collecte de signatures dans tout le pays et le Conseil national électoral avait prévenu. Si le seuil de 1% n'était pas atteint dans 20 des 24 États du Venezuela, l'ensemble du processus serait invalidé. Le dirigeant politique d'opposition, Enrique Capriles, a publié sur Twitter un document qui lui interdit de quitter le pays. La mesure concerne aussi le secrétaire exécutif de la table pour l'unité démocratique, Jesús Torrealba, et 6 autres opposants. La possibilité d'organiser ce référendum est désormais quasiment nulle. Alors que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura une explosion sociale comme l'avait averti Enrique Capriles récemment? C'est assez peu probable car l'opposition est assez désunie. Elle est divisée entre les modérés et les radicaux qui exigent plus de pression de la rue pour faire partir Maduro. Les modérés sont partisans du dialogue et il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup de concessions au secteur privé, notamment dans le secteur alimentaire et pétrolier. Alors le référendum est perçu comme une transition électorale, constitutionnelle et pacifique, pour mettre fin à la crise politique que vit le pays depuis que l'opposition est majoritaire au Parlement. Mais les Vénézuéliens se soucient plus de leurs problèmes économiques quotidiens, comme faire la queue pour trouver des aliments. Et surtout, ils refusent la violence. Le trauma des 43 morts lors des manifestations de 2014 reste vif dans la mémoire des gens.
Merci Angèle Savino pour vos précisions. Vous étiez en direct de Caracas pour France Culture. À Calais, le démantèlement de la jungle se prépare. C'est désormais confirmé par le ministère de l'Intérieur. Il va commencer lundi matin à partir de 8h. Plus de 2000 personnes sont mobilisées, des agents de l'État, des traducteurs, des pompiers et des secouristes. Il y aura aussi plus de 1200 policiers qui feront en sorte que de nouveaux squats ne se reforment pas. Mathieu Darrier de France Bleu Nord, vous nous expliquez comment va se dérouler cette évacuation.
Avec 60 bus le premier jour, puis 40 les deux suivants, le dispositif est calibré pour 7000 migrants. Ils seront accueillis dans un centre de 3000 mètres carrés, explique la préfète du Pas-de-Calais qui va diriger les opérations.
Nous avons loué un hangar, nous l'avons organisé comme une gare routière pour accueillir tout ce public de migrants. Nous avons fait les choses de façon organisée aussi, de manière à ce qu'il y ait des files à l'entrée avec des pictogrammes.
Une file pour les majeurs qui pourront partir en groupe s'ils le souhaitent, une pour les familles, les personnes vulnérables et enfin les mineurs isolés qui resteront en encore quelques jours dans le village de conteneurs de la Lande. Probablement peu nombreux, les réfugiés qui refuseront les deux propositions de départ seront placés en rétention. Quant aux activistes qui s'opposeraient au démantèlement, notamment les no-borders arrivés le week-end dernier, un commissariat mobile les attend.
Nous avons institué une zone d'accès réglementée de manière à ce que ne puissent être sur le camp que les personnes qui ont l'autorisation d'y être, c'est-à-dire ceux qui y vivent, les migrants, et puis ceux qui s'occupent des migrants, donc les associations, les autres, n'ont rien à y faire. Et nous avons donc pris les dispositions pour cela.
Dès le deuxième jour, 40 agents d'une entreprise de nettoyage viendront démonter les abris laissés vides et les pompiers seront là si les cabanes brûlent. C'est une sorte de tradition chez les Afghans.
Les précisions de Mathieu Darrier de France Bleu Nord. Le mouvement de grogne des policiers se poursuit avec une nouvelle initiative pour protester contre la politique pénale du gouvernement. Des rassemblements silencieux seront organisés tous les mardis devant les palais de justice de France. C'est une intersyndicale comprenant notamment le premier syndicat de policiers Alliance qui en est à l'origine pour ne pas laisser complètement la main à l'organisation Unité SGP Police FO qui a appelé à une marche de la colère mercredi prochain. Le chef de l'État recevra les syndicats à l'Élysée lundi. Les mesures promises par Bernard Cazeneuve ne suffisent pas à calmer la fronde. 3000 policiers étaient encore dans la rue la nuit dernière dans plusieurs villes de France. Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, a aussi promis de transmettre aux organisations syndicales les chiffres des réponses pénales pour les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, ce qui commence à inquiéter les magistrats, comme l'explique Clarisse Taron, la présidente du syndicat de la magistrature.
Évidemment, les magistrats ne sont pas laxistes, les peines sont dans l'ensemble de plus en plus lourdes et prononcées de plus en plus suivant des procédures rapides, ce que par ailleurs on conteste parfois. Ce qui nous paraît plus inquiétant dans la démarche actuelle et du garde des Sceaux et des syndicats de policiers, c'est qu'il s'agit en fait d'exercer une pression sur l'indépendance de la justice. Et la démarche actuelle qui consiste à annoncer pour les policiers des rassemblements devant les juridictions est contestable en ce sens.
Vous ne vous sentez pas soutenu par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas ?
C'est-à-dire qu'il a annoncé de nouvelles instructions dont il ne faut pas se voiler la face. Elles existent déjà et la plupart des magistrats sont tout à fait capables de comprendre que des infractions commises, notamment violentes sur des policiers, sont des infractions qu'il faut traiter avec sérieux. C'est plutôt cette espèce de réponse rapide du ministre de la Justice à des policiers pour dire on va faire en sorte de vous donner raison et par là même de perdre sa place ou d'oublier sa place de ministre de la Justice pour devenir en quelque sorte un pseudo-ministre de la police alors qu'on a l'impression que Jean-Jacques Urvoas a toujours rêvé d'être à l'intérieur.
Des propos recueillis par Pauline Renoir. Par ailleurs, l'enquête concernant l'attaque contre des policiers à Viry-Châtillon à l'origine du mouvement de contestation policier vient d'être confiée à deux juges d'instruction. C'est une instance qui existe depuis 2006. Le groupe quadripartite antiterroriste s'est réuni à Paris aujourd'hui. Quatre procureurs qui représentent la France, le Maroc, l'Espagne et la Belgique. Ils cherchent à améliorer leur coopération dans ce domaine de la justice antiterroriste, éminemment transnationale, comme l'ont montré les attentats du 13 novembre à Paris. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Les magistrats s'inquiètent en particulier du chiffrement des communications et du verrouillage des appareils électroniques.
Et c'est même un véritable appel solennel lancé conjointement par les quatre procureurs antiterroristes, appel adressé à la fois aux autorités internationales et aux sociétés concernées, opérateurs et fournisseurs de logiciels informatiques, car si le problème du chiffrement n'est pas nouveau, il n'est toujours pas résolu. En l'occurrence, le procureur fédéral belge Frédéric Van Leuf s'inquiète tout particulièrement de la radicalisation des jeunes.
Nous sommes fort inquiets par rapport à l'évolution de certaines technologies et par rapport au fait que de plus en plus de personnes vulnérables soient touchées par une propagande de style totalitaire. Nous sommes confrontés maintenant souvent à des jeunes personnes qui vont chercher de façon autonome des propres informations et tombent parfois sur des faux prophètes et se radicalisent tout seuls derrière leur ordinateur sans que le milieu familial puisse faire quelque chose.
Et pour le procureur de Paris, François Molins, le chiffrement des communications sur certaines messageries à travers par exemple l'application Telegram qui permet aux djihadistes de communiquer entre eux ou le verrouillage de certains appareils devenus de plus en plus difficiles à craquer pose un double problème à la fois en termes de prévention et d'investigation. François Molins.
Connaître les données des téléphones, c'est quelque chose qui est important parce que ça peut permettre d'éviter des passages à l'acte et ça peut permettre de démanteler des cellules et ça peut permettre effectivement de trouver plus rapidement des gens qu'on cherche parce qu'on a commis des attentats. Il y a aujourd'hui des applications auxquelles on n'envoie même plus de réquisitions parce qu'on sait par avance qu'on ne nous répondra pas. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est effectivement un facteur de paralysie de certaines investigations.
Au-delà des réticences récurrentes des opérateurs, les procureurs abordent aussi dans leur déclaration finale la question des données personnelles. Même si leur protection constitue un droit essentiel, la menace terroriste justifie selon eux qu'il puisse y avoir accès avec toutes les garanties procédurales requises.
Merci Florence Sturm pour vos précisions. Le Conseil constitutionnel a censuré un volet de la loi sur le renseignement ce matin. Les sages avaient été saisis d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, par trois associations dont la Quadrature du Net. Elles estimaient, ces associations, que la surveillance des communications hertziennes, c'est-à-dire sans fil, sans cadre contraignant, portait atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elles ont donc obtenu gain de cause ce matin. Le Conseil constitutionnel demande la réécriture du texte et c'est un motif de satisfaction pour Patrice Spinozzi, l'avocat des trois associations.
La loi permettait la surveillance hertzienne sans la définir. Or, aujourd'hui, tout est à un moment ou à un autre hertzien. À partir du moment où il y a du Wi-Fi, à partir du moment où il y a de la 3G, à partir du moment où il y a de la Bluetooth, nécessairement, on est là dans quelque chose d'hertzien et donc des données qui pourraient, sur le fondement de ce texte, si on en a une acception large, comme pouvaient en avoir les services de renseignement, pouvaient être captées. Et c'est bien ce qui est censuré aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel vient dire non, vous ne pouvez pas surveiller hors de tout cadre légal, vous ne pouvez pas surveiller sans avoir des éléments précis qui justifient cette surveillance. Ce texte, parce qu'il est trop général, parce qu'il n'encadre pas suffisamment cette surveillance, doit être abrogé et le législateur doit revoir sa copie.
Des propos recueillis par Delphine Gauthier. C'est un avis qui était très attendu après deux décisions de justice contradictoires l'année dernière. La rapporteure du Conseil d'État recommande d'autoriser sous condition l'installation de crèches de Noël dans les bâtiments administratifs. L'Assemblée du contentieux de la plus haute juridiction administrative s'est réunie ce matin, place du Palais Royal à Paris. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
La recommandation rendue insiste sur la dimension pacificatrice de la laïcité.
Effectivement, le rapporteur estime qu'une crèche dans une mairie n'est pas incompatible avec la loi de 1905, car ce qui était au départ une tradition cultuelle est devenu culturel. Mais pour qu'une crèche soit autorisée dans une administration publique, il faut qu'elle soit temporaire, les temps de fête de Noël, et qu'elle ne s'accompagne d'aucun prosélytisme religieux. Un compromis qui satisfait maître Denis Garraud, avocat au Conseil d'État de la commune de Melun.
En fait, il s'agit de concilier évidemment le principe de laïcité et puis l'histoire de la France qui, qu'on le veuille ou non, est une histoire qui a des racines, notamment chrétiennes, pas exclusivement, mais notamment chrétiennes. Et il faut éviter que aussi bien la laïcité vienne interdire le rappel de ce que nous sommes, de ce qu'est notre culture et notre histoire. Et en même temps, il ne faut pas non plus que le rappel de cette histoire vienne vider le contenu du principe de laïcité.
Pas de compromis souhaitable. En revanche, du côté des associations laïques, une autorisation de crèche dans une mairie pourrait être considérée comme un privilège accordé à une religion. Maître Régis Froget, avocat de la Fédération des Libres Penseurs.
D'abord, on doit se passer du point de vue de l'usager, de la perception que l'usager a de la crèche, et non pas du point de vue de la personne publique. Et puis, la loi ne prévoit absolument aucune exception, si ce n'est le cas des expositions que le rapporteur public a écartées. Donc, il doit être assez clair que dans un hall de mairie, vous ne pouvez pas avoir une crèche qui représente une scène biblique.
Rappelons que la Cour d'appel de Nantes avait validé l'installation d'une crèche au Conseil général de Vendée, alors que la Cour d'appel de Paris avait au contraire interdit l'installation d'une crèche à la mairie de Melun.
Explication signée Antoine Marette. De l'invention à l'innovation, passer du concept au produit, c'est le but des SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Elles tenaient leur seconde convention ce matin à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Il y en a 14 sur tout le territoire français. Les premières ont vu le jour en 2012. Les SAT regroupent aujourd'hui plus de 150 000 chercheurs dans 185 établissements de recherche avec une mission d'économie de la connaissance. Écoutez le reportage de Marc Van Torout.
Trois mois, c'est le temps qu'il a fallu à Marie-Hélène Gramatikov, fondatrice de Lactips, pour acquérir un brevet sur la transformation des protéines de lait en matière plastique. Alors qu'avant les SAT, la durée des négociations était plutôt d'un an et demi.
Quand on voit les propriétaires du brevet, il y a l'État à travers les universités, il y a les différents laboratoires. Effectivement, le fait de regrouper et d'avoir qu'un seul interlocuteur pour la négociation, c'était très agréable.
Près de 900 millions d'euros du plan d'investissement Avenir de 2010 ont été consacrés aux SAT. Depuis, plus de 400 licences ont été concédées à des entreprises et près de 150 start-up ont vu le jour. Mais les petites entreprises ne sont pas les seules à en profiter. Les grands groupes aussi, comme BASF, le leader mondial de la chimie. David Hérault dirige la branche recherche et développement en cosmétique. Il a travaillé avec un chercheur de l'université de Reims pour mettre au point un produit pour la peau.
On travaille depuis 25 ans avec le professeur Macquart, et donc on avait déjà un a priori très positif quand il est venu nous voir avec un produit déjà assez avancé. Et la SAT a permis de conclure la licence sur le brevet en un temps très très court.
Depuis l'an dernier, les premiers produits issus des SAT sont arrivés sur le marché et le rythme s'accélère avec plus de 50 start-up créées depuis le début de l'année.
La météo de votre samedi, le pays est coupé en deux sur une ligne, La Rochelle-Dijon, un temps lumineux au sud de cette ligne, des nuages au nord avec quelques pluies dans les Hauts-de-France. Les températures, il fera 7 à Amiens, 9 à Lille, 13 à Biarritz, 16 à Marseille et 18 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun à la technique et Clément Daté, 18h20 sur France Culture, du grain à moudre, avec vous Hervé Gardet.